Nous allons commencer par entendre Gabriel Marceau, que je remercie beaucoup d'avoir accepté de venir. Je suis un de ses lecteurs, mais nous sommes nombreux à être les lecteurs de Gabriel Marceau, qui connaît à la fois, enfin, je veux dire, ce système de l'intérieur et du point de vue universitaire, puisqu'elle est professeure associée à la faculté de droit de l'Université de Genève, et aussi à cette belle institution qui est l'Institut universitaire des hautes études internationales et du développement, et où elle enseigne le droit de l'OMC. Et par ailleurs, elle a été, et elle est toujours, je crois, impliquée dans le fonctionnement même de l'Organisation mondiale du commerce, puisque vous avez été conseiller à la division des affaires juridiques de l'OMC, où vous travaillez depuis septembre 1994. Gabriel Marceau a publié de nombreux ouvrages, très souvent à la fois en anglais et en français. Donc vous avez continué à sacrifier à cet idiome local auquel nous demeurons attachés. Donc sa bibliographie, on la mettra en ligne sur le site du collège. Je ne veux pas en faire toute la liste ici, elle est abondante. Je vous passe la parole donc, pour un quart d'heure, 20 minutes, si ça vous convient.
Merci infiniment. Merci infiniment, professeur Supio. Je suis honorée d'être ici pour célébrer tout votre travail, votre recherche, votre enseignement sur cette justice sociale qui souvent, on pense, n'existe pas à l'OMC. Alors, ce que je vais faire, c'est un peu comme Jean-Marc Sorel l'avait annoncé, être un peu en désaccord avec votre prémisse de base et expliquer l'évolution, surtout récente, et la place du développement durable à l'OMC. Alors, comme ça a été bien expliqué, au tout début, vers la fin de la Deuxième Guerre, conceptuellement, du moins, on veut faire travailler ensemble le commerce et l'emploi et les normes du travail. Et tout devait être cohérent, mais ça ne fonctionne pas. La charte de La Havane ne va pas être ratifiée. Et tout ce qui reste, c'est un des chapitres qu'on appelle toujours le GATT de l'anglais, qui réfère aux tarifs, les ententes entre les pays pour limiter les droits de douane et les tarifs à la frontière, les mêmes tarifs que le président Trump a élevés récemment. Alors, ce qui se passe en ce moment avec le président Trump et toute cette levée de tarifs et de réactions, c'est mon travail de tous les jours, c'est le cœur de ce GATT. Et alors que dans la charte de La Havane, on référait au travail, etc., ce n'est pas le cas dans le chapitre du GATT, puisque ce n'était qu'un chapitre. Et jusqu'à l'entrée de l'OMC, il n'y aura que le GATT. Il faut aussi comprendre que la règle de base du GATT, elle était simple, elle voulait s'occuper de la discrimination ou interdire la discrimination entre marchandises. Et pour faire un exemple très simple, si je dis que ça, ce sont deux produits, un qui est fait chez moi et celui-ci qui est importé, la règle, c'était que deux marchandises similaires doivent être traitées, réglementées, taxées de façon similaire. Si je vous pose la question, est-ce que ces deux marchandises sont similaires? Vous allez probablement dire oui en apparence. Mais si je vous dis celui-là, il est fait par des enfants de 6 ans non payés, vous allez dire wow, ça dépend peut-être. Si celui-là est fait contre les droits de l'homme, en violation de l'environnement, ces débats deviennent compliqués. Et ça, sur le plan technique, ça s'appelle la façon dont les marchandises sont produites. En anglais, le PPM, le Process and Production Method, ce qui a toujours été interdit sous le GATT jusqu'à l'OMC, c'est-à-dire de traiter différemment des marchandises sur la base de la façon dont ils sont faits. Et la logique, c'est que les règles ont été fondées après la guerre et on ne voulait pas d'abus. Je ne traiterai pas ce verre de la même façon que celui-ci parce que je n'aime pas les chefs politiques. Parce que j'aime pas la façon dont on se brosse les dents là-bas. Vous allez dire, oui, mais ça n'a pas de rapport, peut-être. Mais la logique de base du GATT jusqu'en 1995, c'était que deux marchandises en apparence similaires doivent être traitées de façon similaire et aucune exception n'était possible. Alors, mon collègue ici sur le panel va parler de ce changement. Moi, dans les quelques 10-15 minutes qui me restent, je vais identifier une série de changements qui ont eu lieu avec l'entrée en vigueur de l'OMC. Le GATT existe toujours, mais n'est qu'une composante de l'OMC. Premier grand changement, dans le préambule de l'OMC, on dit qu'un de ses buts, c'est le respect du développement durable. Et à l'OMC, on met en place une cour d'appel obligatoire que les Américains veulent faire sauter de ces temps-ci, mais une cour obligatoire qui va beaucoup invoquer ce développement durable pour faire des changements drastiques dans toute l'approche. Première des choses, on va maintenir la ligne que deux marchandises similaires doivent être, a priori, traitées de façon similaire, mais ça va être développé. Les exceptions vont être complètement ouvertes. Et on va lire des termes qui ont 50 ans, 60 ans d'âge de façon bien différente. Deuxième des choses, on va autoriser ou bien des sanctions, des restrictions, ou bien des stimulants pour favoriser des considérations non commerciales. Dans le tout premier jugement de cette cour d'appel, elle va dire que le GATT et l'OMC ne peuvent plus être lus en isolation clinique du reste du monde. Alors, on ne peut plus lire juste le commerce seul, et ça va introduire un tas de distinctions possibles entre marchandises apparemment similaires, sur la base notamment de l'environnement. Dans les années 96-96, certains membres de l'OMC, dont la France et l'Union européenne, veulent qu'on réintroduise les normes du travail dans le commerce. C'est refusé par la majorité des pays en voie de développement, mais on reconnaît quand même l'importance des normes du travail et on écrit dans cette déclaration de Singapour que l'avantage comparatif des pays en développement ne doit jamais être mis en question. Ceci étant, et c'est très intéressant, en 2008, au BIT, on adopte la Déclaration sur la justice internationale et on ajoute de façon très importante que, au contraire, je sais que c'est dans une autre organisation, mais on dit bien que la violation des principes et droits fondamentaux ne peuvent jamais être invoquées pour à l'avantage de ce qu'on appelle les droits comparatifs, des avantages comparatifs. Donc, la déclaration du BIT entre en contradiction avec la déclaration de Singapour, mais la Cour nous a bien dit que quand on lit maintenant le traité de l'OMC, on doit le lire en tenant compte des autres choses à l'extérieur du système OMC. Autre changement important, un nouvel accord est né à l'OMC qui s'appelle l'accord OTC, et qui autorise expressément les gouvernements à faire des distinctions qui étaient avant interdites, des distinctions réglementaires sur la base des processus et méthodes de production. Alors, un gouvernement sous le GATT n'avait pas le droit de traiter différemment deux verres qui semblent similaires. La règle change et on dit, au contraire, les gouvernements ont ce droit pour autant que les distinctions réglementaires soient légitimes. On ne définit pas ce qui est légitime, mais on se rappelle que dans le préambule de l'OMC, le développement durable est un but. Alors clairement, le but du développement durable, et ça vous le savez, ça a des composantes économiques, environnementales, mais aussi sociales. Il n'y a pas eu de litige à l'OMC entre commerce et travail. Mais il y en a eu plusieurs sur l'environnement, dont certaines affaires importantes défendues par la France et gagnées. Et il est clair que des considérations non commerciales peuvent être introduites. Un autre principe tout à fait que moi, comme juriste, je trouve superbe dans ce nouvel accord sur l'OTC, c'est le principe qui dit que lorsqu'un gouvernement adopte un règlement national qui est conforme avec un standard international négocié à l'extérieur de l'OMC. La norme nationale va être présumée cohérente et consistante et compatible avec le droit de l'OMC, même si elle restreint le commerce. Alors, c'est une reconnaissance de l'importance des standards négociés à l'extérieur de l'OMC. Et la grande question qui se pose depuis quelques années, c'est quand est-ce qu'un pays va adopter une norme nationale sur la base du travail, invoquer les normes du BIT, de l'Organisation internationale du travail, être poursuivi et gagner au terme de cette présomption de compatibilité. Autre élément important, c'est on a reconnu que les donneurs de préférence, donc les pays riches, peuvent dorénavant mettre des conditions aux avantages tarifaires qu'ils donnent aux pays en développement. Ça vient d'une affaire entre l'Europe, l'Inde et le Pakistan après les événements de 2001, où l'Europe donne certains avantages tarifaires. Alors, la règle du GATT et de l'OMC, c'est que deux marchandises similaires, je me répète, doivent être traitées de façon similaire. Alors, si à l'importation en provenance de deux pays, je mets comme pays importateur un droit tarifaire, un droit de douane, disons, de 10%, tous ceux qui exportent des verres similaires chez moi, qui font partie du club de l'OMC ou du GATT, vont payer le même droit de douane. L'Europe dit, moi, je vais donner un meilleur accès aux pays en développement s'ils mettent en place des lois concernant la réglementation et le contrôle des drogues. L'Europe va perdre cette affaire parce que l'Inde va dire « Moi, j'ai aussi un régime similaire au Pakistan. Pourquoi avez-vous donné cet avantage au Pakistan ?» Et il a été donné après les attaques de 2001 pour amadouer le Pakistan. L'Europe va perdre cette affaire, mais va gagner la bataille de principe où on va lui dire « Contrairement à votre système de préférence sur l'environnement et sur les normes du travail, votre système sur le contrôle de drogue est injuste parce qu'il y a plusieurs pays qui sont dans une même situation, mais qui ne sont pas traités de la même façon. La conclusion de cette affaire, c'est qu'un pays donateur davantage pour stimuler le respect de normes non commerciales, un pays peut mettre des conditions en disant « je te donne un meilleur accès », et pour autant que les pays en situation similaire soient traités de façon similaire, ces avantages sont compatibles. Et après ça, la communauté européenne a modifié tout son système d'aide et donne un meilleur accès à son marché aux pays qui ratifient les droits fondamentaux du BIT, les droits de l'homme, etc. Ça a rendu beaucoup de pays en développement un peu furieux, que le donneur de préférence puisse choisir, mais ça a rapproché cette cohérence. Deux autres points, parce que je veux laisser plus de temps à la discussion, ce qui est permis et qui se trouve souvent, par exemple, en matière de services. Là, j'ai parlé des règles sur les marchandises, les plus vieilles, mais maintenant, il y a des règles sur les services, les banques, les assurances, les écoles, qui sont ouvertes aux étrangers, ça aussi, c'est du commerce international. Les Européens ont mis dans leur liste, qu'on appelle leurs engagements spécifiques, l'obligation que les entreprises étrangères respectent le salaire minimum européen. Bon, ce que ça veut dire, c'est peut-être pas clair, mais du moins, ça n'a jamais été contesté. Et la logique demeure que, pour autant que ce traitement est fait pour le développement durable et que tout le monde sera traité de la même façon, ce serait valide. Un dernier commentaire sur les accords régionaux. Les règles du GATT et maintenant de l'OMC ont toujours permis à un sous-groupe de pays de se traiter encore mieux. L'Europe est un exemple, l'ALENA, le Mercosur. Alors ça, c'est permis alors que la règle de base est la non-discrimination. La discrimination entre pays voisins ou amis est possible à certaines conditions, notamment que l'essence du commerce entre eux soit bien couvert. La logique, c'est qu'ils vont s'enrichir et étant tous plus riches, ils pourront acheter plus de l'extérieur. Dans les accords régionaux, il y a maintenant énormément de références aux standards du travail. Similaire un peu aux avantages préférentiels dont je viens de parler, avantages préférentiels qui, si vous suivez la presse un peu, peuvent être retirés. Alors, les Américains ont retiré les avantages qu'ils avaient donnés au Bangladesh quand il y a eu l'écroulement et que 2000 employés sont décédés. L'Europe a fait récemment la même chose avec le Myanmar. Et dans les accords régionaux, maintenant, on prévoit le tout. Pour terminer, et qui suis-je pour faire des suggestions? Je suis fonctionnaire, mais c'est peut-être mon chapeau un peu universitaire. Le problème, à mon humble avis, ce ne sont pas les règles comme telles, ni le droit, malgré que cette cohérence, cette union entre commerce, parce que le commerce est bon si ça donne des emplois, et si les normes minimales sont respectées. Cette cohérence, elle peut être améliorée. Elle existe un peu par les exceptions à l'OMC, par certains principes. Le problème, c'est plutôt la distribution. Je n'ai rien inventé. Le commerce enrichit les pays. Il n'y a aucun doute sur ça. On peut vous mettre des montagnes de statistiques. Il y a 27 fois plus de commerce sur la planète aujourd'hui qu'en 1947-1948, quand le GATT a commencé. La difficulté, c'est comme je dis à mes étudiants un peu naïvement, avec le commerce, on fait beaucoup d'argent, on ramasse beaucoup de droits de douane et autres, mais que font les gouvernements avec cet argent? Est-ce qu'ils construisent des hôpitaux et des écoles ou est-ce qu'ils achètent des bijoux à l'épouse du président? Bon, c'est trop facile, mais je fais ça pour un peu forcer la réflexion. Et ce qui se passe, c'est que sur la planète, en ce moment, il n'y a pas d'organisation qui est responsable de savoir ce que les gouvernements font en termes de fiscalité et de taxation et comment ils distribuent les bénéfices du commerce. Certains disent que dans le mécanisme de transparence de l'OMC, ça pourrait être un bon forum, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de forum international qui gère la fiscalité. Alors, ça a des incidences sur ce qu'on lit. Google qui va s'installer en Irlande parce qu'il y a moins de taxes, ça en est une. C'est déjà un problème énorme à l'intérieur de l'Europe, hein, harmonisé. Mais sur le plan mondial, à mon avis, c'est là une des grosses raisons de la difficulté. C'est la distribution équitable des bénéfices du commerce. En plus, évidemment, d'un effort amélioré nécessaire, plus dynamique, commerce et travail. Merci beaucoup. Merci.